Bienvenue sur les chemins du vendredi où chaque semaine nous partons à la rencontre de ceux et celles qui ont fait de la philosophie leur métier. La philosophie est-elle une vocation ou une profession? Comment viennent les idées? Comment se fabrique un concept? À quoi ressemble l'atelier du philosophe et quel rôle le ou la philosophe doit-elle jouer dans la cité? Aujourd'hui, mon invitée est philosophe féministe. Ce titre, elle le revendique haut et fort. D'abord étudiante en sciences sociales, aujourd'hui enseignante de sciences politiques à l'Université de Reims et chargée de mission égalité-diversité au sein de cette même université, c'est à l'âge de 40 ans qu'elle opère une conversion thématique et entre en féminisme. Mais pas seulement par les idées et les concepts, par le corps avant tout. Maternité, menstruation, sein, elle a fait sienne les questions de l'incarnation féminine. Avec deux ouvrages notamment, La Révolution du Féminin, paru en 2015, et Le Corps des Femmes, la bataille de l'intime, paru en 2018. Mais aussi avec un docu-fiction dans la jungle sur les femmes en politique, des enquêtes de terrain, des articles et des tribunes. Sphère intime, privée, publique ou politique, rien n'échappe à son œil et à sa plume pour déployer son féminisme phénoménologique. Mon invitée s'appelle Camille Froide-Vaumétry. Bonjour.
Bonjour.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Parler de faire en moi je passerai pas. Bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Parler de faire en où je serai poli pour la télé.
Camille Froide-Vaumétry, vous revendiquez, je l'ai dit, ce qualificatif de philosophe féministe. Qu'est-ce que ça veut dire, philosophe féministe? Est-ce qu'on n'est pas d'abord philosophe ou féministe? Comment on est les deux ensemble?
Je crois que j'ai eu une sorte de seconde naissance philosophique avec le féminisme, que j'ai rencontré de façon très incarnée. C'est pas totalement un hasard, puisque c'est à l'occasion de ma première maternité que je me suis intéressée à la question de la place des femmes dans la société, que j'ai découvert les études de genre, la pensée féministe, et que j'y ai longtemps cherché quelque chose qui aurait pu m'aider à l'époque à éclairer la situation que je vivais, à savoir la rencontre comme une déflagration à la fois de ma nouvelle fonction de mère et puis de mes nouvelles fonctions de maître de conférence, puisque c'était absolument au même moment que j'ai eu mon premier enfant et que j'étais recrutée pour la première fois à l'université. Et donc je me suis posé la question d'essayer de comprendre ce que ça voulait dire pour les femmes d'aujourd'hui que de vivre dans le monde en tenant ses fonctions privées et publiques, et surtout en devant faire quasiment comme si la chose était d'une évidence éternelle, alors qu'elle est remarquablement inédite et surtout remarquablement difficile aussi. Et c'est en constatant que dans la littérature et la pensée que je lisais, finalement, je ne trouvais qu'une interprétation très négative de cette, notamment de la maternité, que je me suis dit, mais que c'était tout de même curieux que dans le féminisme, on ne pense pas davantage une expérience vécue aussi commune et aussi universelle que la maternité.
Mais quel lien avez-vous fait entre un nouveau travail, un travail intellectuel de maître de conférence où il s'agit de faire des recherches, de donner cours, et une expérience privée et puis qui relève du corps et qui est même peut-être parfois indicible?
Alors, au départ, c'était simplement, disons, par une curiosité personnelle que j'étais partie à la recherche de réflexions et d'analyses qui pouvaient m'aider à comprendre mieux ce que je vivais. Mais assez rapidement, une fois passé, disons, une forme de déception par rapport à ce que j'ai interprété comme une sorte de manque ou d'insuffisance dans la pensée féministe, eh bien, j'ai commencé tout simplement à y réfléchir un petit peu moi-même, jusqu'au jour où il m'a semblé que je pouvais peut-être prendre part au débat.
Et alors, comment vous avez fait pour prendre part au débat? Parce que vous êtes maître de conférence en sciences politiques, maintenant professeur. Vous avez d'abord commencé par les sciences sociales. Comment on en vient à la philosophie? Est-ce que vous enseignez la philosophie ou est-ce qu'en fait c'est une manière de penser pour vous, une manière d'écrire, une manière de réfléchir, des thèmes ou tout simplement un corpus sur lequel vous vous appuyez?
Alors en fait, en sciences politiques, je suis spécialiste de philosophie politique. J'ai fait une thèse d'histoire des idées politiques, de philosophie politique, et donc pendant très longtemps, une quinzaine d'années à peu près, je pense, j'ai travaillé dans une perspective de philosophie politique assez traditionnelle, consistant à étudier les grands auteurs qui ont notamment pensé et permis l'avènement de la modernité démocratique. Et ce travail-là, il a été important parce que sans forcément très bien en prendre conscience à l'époque, mais j'ai exploré des textes qui étaient tous écrits par des hommes et qui donnaient à comprendre une réalité politique, elle aussi faite par des hommes et pour des hommes. Et au moment où j'ai commencé de réfléchir dans une perspective féministe, la première chose qui m'est apparue comme une sorte d'impensé scandaleux, c'était non seulement évidemment l'exclusion des femmes de la modernité démocratique, mais leur exclusion même de la philosophie politique. Et la façon dont les penseurs modernes se réapproprient sans aucun complexe l'ancien schéma patriarcal, c'est-à-dire la division sexuée du monde entre une sphère privée féminine inférieure, une sphère publique masculine supérieure, héritée d'Aristote et qui a traversé les siècles, et qui a traversé les siècles jusqu'à par-delà même le grand tournant de la modernité. Et en y réfléchissant, ce qui m'est apparu comme quelque chose de crucial et à la fois dont je me disais mais c'était tellement étonnant que personne ne l'ait pointé, c'est que l'on doit aux théoriciennes féministes des années 70 d'avoir en quelque sorte parachevé le projet démocratique des penseurs du XVIIIe siècle et des révolutionnaires, et que l'on doit à ces femmes d'avoir en quelque sorte mis le doigt sur une forme d'incomplétude, pour pas dire de contradiction, dans la modernité démocratique, en mettant un terme, ou en tout cas en commençant d'ébranler cette fameuse hiérarchisation sexuée du monde.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, alors, philosophe féministe? Est-ce que je vous ai posé la question sur philosophe, c'est-à-dire que c'est une manière de s'intéresser à certains sujets, de les problématiser, mais féministe, est-ce qu'à partir du moment où on s'interroge sur la condition des femmes ou sur des études de genre, est-ce qu'on est forcément une philosophe féministe? La question que je me pose, c'est que est-ce qu'on peut travailler sur ce champ-là sans être féministe? Est-ce qu'on n'est pas de fait féministe? Est-ce qu'il est obligatoire de le préciser? Ou est-ce que de fait, quand on rajoute féministe, c'est une manière de dire attendez-vous à avoir cette perspective-là, attendez-vous à avoir un type d'écrit qui va vous parler des femmes, du point de vue des femmes, donc on ne sera pas dans un autre type d'écrit qui relèverait du patriariat ou autre?
Alors l'adjectif, il renvoie évidemment d'abord à une sorte de thématique ou un champ disciplinaire qui est effectivement le champ des études féministes et des études de genre, donc il dit quelque chose de ma spécialité en quelque sorte, aujourd'hui en tant que philosophe. Et il dit peut-être encore un peu davantage, évidemment, parce que on peut difficilement penser ces questions sans être d'une façon ou d'une autre un peu engagé. Alors pas nécessairement dans une militance de terrain active, quoique, mais c'est pas ça qui m'importe. Mais ce que cela dit aussi, c'est que la façon dont je pense la condition des femmes et des hommes, parce que dans ma démarche, les deux vont ensemble, c'est une proposition qui est aussi un projet. Le projet d'une égalisation plus aboutie des conditions féminines et masculines, le projet aussi d'une réflexion pleinement déployée sur alors ce que c'est peut-être que de vivre dans le monde en tant que femme, mais aussi ce que c'est que de vivre dans une société, la nôtre d'aujourd'hui, soi-disant émancipée, qui tient par un côté le projet de l'émancipation, de la libération des femmes, qui commence de proposer de nouveaux schémas pour penser la condition de l'individu dans le monde. Et là, je pense à tout ce que les études de genre ont permis en termes de remise en cause de la binarité féminin-masculin, tout en se confrontant avec une réalité sociologique qui est, disons, comme une sorte de confrontation permanente qui dresse sans cesse de nouveaux obstacles face à ce projet émancipateur.
Un apprentissage ne raconte pas qui on est. Il raconte simplement les circonstances qui ont fait de vous ce que vous êtes. Et vous ne savez pas ce que vous êtes. C'est pourquoi je suis très peu disert sur cette question, car je crois qu'il y a toujours là une sorte de prétention que je n'ai pas. D'où est-ce que je viens, donc, plutôt que qui suis-je ? Eh bien, je viens d'un monde d'où il était peu probable que j'arrive là où je suis. Je crois que c'est la seule mention intéressante en la circonstance.
Camille Froide-Vaumétry, vous avez reconnu cette voix ?
Bien sûr, c'est celle de Marcel Gaucher, qui a été mon directeur de thèse.
Vous avez, depuis cette thèse sur les religions et la politique, changé de sujet. Vous êtes resté peut-être dans une sphère politique, mais vous êtes, on l'a entendu, vous êtes converti thématiquement au féminisme. Est-ce qu'il reste quelque chose néanmoins de cette période de travail avec Marcel Gaucher, à l'École des hautes études en sciences sociales, et puis aussi de vos travaux sur la religion ? Quel prolongement on peut quand même trouver encore aujourd'hui de ces travaux-là ?
Alors, ce qui fait comme un fil rouge entre ce que je faisais à l'époque et ce que je fais aujourd'hui, c'est un souci, et c'est Marcel Gaucher qui me l'a, comment dire, révélé, un souci pour l'inscription des idées dans l'histoire. J'aime assez cette idée que les concepts ne flottent pas dans l'air comme des espèces de bulles de savon que l'on peut essayer de décrire ou d'attraper, mais qu'ils s'inscrivent de façon très très profonde, qu'ils s'enracinent même dans l'histoire, c'est-à-dire dans des sociétés, dans des temps donnés, et que donc il y a certains concepts, certaines idées dont il est intéressant de voir qu'on ne pouvait pas les penser avant tel événement, avant tel auteur, avant tel autre concept qui a permis d'en penser un suivant. Et donc cette approche qu'on peut qualifier de généalogique, ça c'est quelque chose que j'ai appris de mon travail de thèse sous la direction de Marcel Gaucher. Et puis ce que j'en ai surtout conservé, et ça c'est vraiment, enfin j'en parlais un peu à l'instant, comme une sorte de socle qui était pour moi absolument nécessaire, et ce que je fais dans toute la première partie de la révolution du féminin, c'est de revisiter l'histoire des idées politiques au prisme des femmes, pour mettre au jour précisément la dimension de rupture, la dimension de même presque de mutation que constitue le féminisme des années 70. Alors pour ce qui est de la religion, en revanche, là j'avoue avoir plus largement, comment dire,
mais précisément éloignée. Votre thème, c'était religion, politique et histoire, christianisme et modernité.
Oui, voilà, c'était une réflexion sur un auteur allemand, Ernst Troeltsch, contemporain de Max Weber, qui, comme Max Weber, avait proposé de penser l'inscription des chrétiens dans l'histoire, dans l'économie, dans la société, dans le politique, et qui, notamment, permettait d'affiner, voire même un peu de retravailler l'idée développée par Weber qu'il y aurait un lien d'affinité entre le capitalisme, la modernité démocratique et le protestantisme. Donc c'était vraiment une approche d'histoire des idées.
Et ça, il n'en reste rien. Enfin,
alors ce qu'il en reste, c'est précisément de m'avoir permis de dérouler le fil de la pensée politique, des origines antiques jusqu'à aujourd'hui, en m'arrêtant de façon conséquente à chaque fois sur les grands auteurs qui ont permis de franchir précisément les étapes conceptuelles nécessaires à l'avènement de la modernité démocratique. Et c'est ce qui m'a permis notamment, par exemple, de travailler pour la révolution du féminin sur, la façon... j'allais dire scandaleuse, mais c'est vrai que c'est en ces termes que je pense un peu la chose, dont Rousseau propose de penser la condition des femmes dans la modernité démocratique, puisque ce qu'il nous propose tout simplement, c'est de faire de la famille patriarcale la condition même de la vie démocratique, ce qui est quand même un peu un comble.
Vous avez dit quelque chose, Camille Froide-Vaumétry, qui m'a interpellée. Vous avez dit donc par rapport à la méthode généalogique que vous avez conservée de Marcel Gaucher, qu'il y a certains concepts qui n'auraient pas pu apparaître avant telle ou telle époque ou avant tel ou tel auteur. De là ma question, enfin j'en ai même deux. Quel est vraiment le concept qui vous intéresse ? Est-ce celui de femme ? Est-ce celui de féminin ? Est-ce celui de féminisme ? Et est-ce que vous pensez qu'on n'aurait pas pu poser cette question du féminin ou du féminisme ou des femmes ? Vous allez me dire de quel concept avant, par exemple, Simone de Beauvoir en 49 avec le deuxième sexe, ou avant même, on peut peut-être remonter à Olympe de Gouges avec la déclaration des droits de la femme au siècle des Lumières. À quel moment, en fait, on a pu commencer à penser les femmes ou ce concept de féminin ?
Tout au long de l'histoire de la pensée politique, les femmes ont non seulement été niées, alors en tant que sujet de droit, en tant que sujet impliqué dans la cité, en tant que sujet de connaissance, mais aussi en tant que, qu'objet philosophique, c'est-à-dire objet de pensée. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas penser cette question des femmes tant que les femmes elles-mêmes n'étaient pas considérées comme des individus. Tant qu'elles étaient ramenées et réduites à leur nature procréatrice et donc enfermées en quelque sorte dans la sphère des nécessités, de la matérialité, de l'immanence, voilà, de tout ce qui, d'une certaine façon, ne relève pas de la pensée. En tout cas, dans l'histoire traditionnelle, d'un certain point de vue, de la philosophie. Et c'est donc, je crois, à partir du moment où les femmes, par le combat féministe, ont conquis cette position de sujet, que du coup, elles sont devenues aussi des objets de pensée, c'est-à-dire, dans la seconde moitié du 19e siècle, à peu près. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si, quasiment au même moment, donc dans les dernières décennies du 19e, un certain nombre de nouvelles sciences, comme l'anthropologie, comme la psychanalyse, alors qui n'est pas une science, mais disons
une science humaine.
Voilà. Et aussi, les premières études féministes se constituent au même moment et toutes, d'une certaine façon, se saisissent précisément de cet objet de pensée des femmes.
Alors, votre objet de pensée, c'est les femmes ou le féminin ? Ou le féminisme ?
Est-ce que je suis obligée de trancher ? Mon objet de pensée, c'est précisément d'essayer de trouver une nouvelle façon d'analyser cette question des femmes en tant que sujet dans nos sociétés de l'émancipation. Et je crois que ce que ça impose notamment, c'est de se débarrasser d'un certain nombre de schémas conceptuel dont on a du mal encore aujourd'hui, je trouve, à se débarrasser, comme par exemple celui qui oppose la nature à la culture, mais comme par exemple aussi celui qui oppose l'approche universaliste de l'approche essentialiste, ou plus largement le corps et l'esprit, les émotions et la raison. Cette obsession binaire de la pensée occidentale, je crois qu'on est aujourd'hui en quelque sorte sommé de la bousculer, et notamment pour cette question des femmes ou du féminin ou du féminisme. Et ce que j'aime faire, ce que je m'efforce de faire, c'est précisément de me dire qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui qu'être dans une société en tant que sujet de droit, dans un corps sexué féminin. Et donc ce qui me paraît intéressant, c'est d'articuler en fait des objets de pensée qui jusqu'à présent avaient été en quelque sorte séparés les uns des autres.
Et est-ce que vous pensez qu'ils sont pas encore séparés, en fait, ces deux objets de pensée? Est-ce que vous ne pensez pas que vous faites aussi un travail dans le champ féministe, ou en tout cas des études sur le féminin, qui peut-être paraît marginal, car la question du corps pour les femmes, c'est aussi le lieu de l'aliénation. Donc, est-ce qu'en fait, on n'essaye pas aussi, dans certains champs féministes, de continuer à dissocier l'idée d'un sujet droit de l'idée d'un corps vécu, d'une expérience vécue?
L'approche que je développe, donc phénoménologique, je crois qu'il faut que j'en dise un mot maintenant, parce que c'est celle précisément qui me permet d'essayer de penser un peu par-delà la binarité. L'approche phénoménologique, elle permet de tenir ensemble la pensée et le corps, puisque dans la phénoménologie, l'existence comme subjectivité ne fait qu'un avec l'existence comme corps. Et le corps, tel qu'il est défini, comme corps vécu notamment, c'est pas la matérialité de l'existence, mais bien au-delà de ça, c'est la possibilité même d'un accès au sens qui passe par l'incarnation. Et donc le corps est vecteur de signification, il est aussi le médiateur de la relation aux autres, de la relation à soi-même, et il permet donc, l'approche phénoménologique, elle permet donc d'une certaine façon de rassembler ce qui a été tenu pour séparer, et de penser non pas un « je pense » complètement désincarné, dématérialisé, mais un « je peux » incarné. Et donc c'est une approche qui m'intéresse beaucoup parce qu'elle fait droit à ce que je considère être la dualité de la condition féminine contemporaine, c'est-à-dire à la fois au versant abstrait de nos existences en tant que sujet de droit, émancipé, et puis le versant concret de nos existences en tant que sujet incarné et sexué. Et l'approche du féminisme phénoménologique, c'est d'une certaine façon tenir ensemble la singularité individuelle de nos existences incarnées avec la réalité collective, massive, de la domination.
Nous savons aujourd'hui que le plus grand danger de tyrannie vient de l'exécutif. Mais si nous prenons à la lettre l'esprit de la Constitution, que pensaient les pères fondateurs? Ils pensaient s'être libérés d'abord de la domination de la majorité. C'est pourquoi ce serait une grave erreur de penser que ce que nous avons est une démocratie. Ce que nous avons ici, c'est un système républicain.
C'est la voix d'Hannah Arendt, peut-être l'avez-vous reconnue, Camille Froidevaux-Métry. C'est une archive de 1974. Alors vous avez, quand vous avez opéré votre conversion thématique, vous avez remarqué l'absence de textes sur un certain nombre de sujets féministes, un certain manque par exemple sur la maternité, la grossesse. Hannah Arendt n'a pas abordé ces sujets-là, néanmoins elle a quand même compté pour vous et peut-être pour quelque chose que vous venez d'évoquer sur cette séparation justement entre le politique, le social et le privé, l'intime.
Il y a peut-être deux idées importantes pour moi que j'ai trouvées chez Hannah Arendt. La première, c'est sa définition du politique comme ce qui existe entre les hommes lorsqu'ils parlent ensemble, cet espace public qui se crée dans la rencontre des personnes, et donc cette approche quasi relationnelle en fait du politique. Et ça, c'est quelque chose qui importe dans ma réflexion, puisque dans la façon dont je pense alors le féminin, et au passage il faut que je dise immédiatement que évidemment je ne le pense pas comme une essence ou comme quelque chose qui serait de l'ordre de l'immuable, mais tout au contraire dans une perspective phénoménologique comme un état du rapport au monde et aux autres toujours nécessairement situé et incarné, donc situé dans le temps, dans une culture donnée, et incarné dans les corps, qui est un rapport au monde et aux autres, des femmes qui passent par le corps. Voilà comment je définis le féminin. Étant entendu donc qu'en fonction de l'époque concernée, ce féminin varie, et qu'il est précisément, enfin c'est ce qu'il définit, éminemment plastique. Et dans cette plasticité, et donc dans cette définition du féminin comme le rapport au monde et aux autres qui passe par le corps, cette question du relationnel, et du lien entre les êtres, évidemment, elle est fondamentale. Et puis l'autre idée importante, ou apport crucial pour moi chez Arendt, c'est la façon qu'elle a de penser par-delà la binarité privé-public, en introduisant un troisième terme, qui est celui de l'intime, qui a eu, évidemment, pour moi, une énorme importance, c'est-à-dire de réfléchir et de prendre conscience que nos sociétés ne sont plus structurées sur ce mode de la binarité hiérarchisée, mais qu'il existe trois ordres d'existence, désormais, trois domaines d'existence. Alors, on le doit à la pensée des philosophes, notamment du 19e siècle, mais on le doit aussi aux théoriciennes féministes, c'est-à-dire une sphère de l'intime familial, longtemps restée comme exceptée du processus moderne d'émancipation, la sphère privée sociale, qui est aussi la sphère du monde du travail, et puis la sphère publique politique. Et la grande nouveauté que nous avons à penser, c'est le fait qu'aujourd'hui, en principe, dans les principes, et les hommes et les femmes possèdent la même légitimité et peuvent nourrir les mêmes aspirations dans ces trois domaines d'existence. Et que nous sommes donc devant quelque chose que je qualifie, donc c'est une proposition conceptuelle, de désexualisation du vivre ensemble, qui fait signe vers un processus, alors, que l'on repère du côté des femmes de façon assez évidente, c'est-à-dire le fait que les femmes se soient investies, se soient engagées dans le monde social, et qu'on a assisté donc à un processus de féminisation de cette sphère sociale. Mais je crois aussi qu'il existe un phénomène qui est évidemment beaucoup moins statistiquement repérable facilement, mais néanmoins, là encore, ce qui m'importe, c'est qu'on commence de pouvoir le penser, ce moment où voilà, on peut penser quelque chose. Et ce que l'on peut commencer de penser, c'est une sorte de phénomène inverse de masculinisation de la sphère intime, c'est-à-dire une aspiration des nouvelles générations d'hommes à prendre leur part dans un domaine qui était l'exclusif des femmes jusque-là.
Il y a une autre figure quand même qui vous a inspiré, qui n'est pas connue en France, qui n'est pas traduite en français, c'est Iris Marion Young. Alors moi, je ne la connaissais pas pour ma part. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ?
Oui, alors Iris Marion Young est une philosophe américaine, donc qui a écrit dans les années 80 essentiellement. Elle a une œuvre assez foisonnante, hein. Elle s'est intéressée à beaucoup de domaines, comme la question de l'environnement notamment, la question aussi de la place des individus dans la démocratie lorsqu'ils sont en position de réfugiés, d'immigrés. Enfin, elle a vraiment une pensée foisonnante, mais elle a surtout, selon moi, une approche de la question des femmes au prisme de la phénoménologie qui a été pour moi de l'ordre vraiment d'une révélation. C'est-à-dire que lorsque j'ai lu les textes qui sont rassemblés aujourd'hui dans un ouvrage qui s'intitule « Showing like a girl » et autres essais, donc « Lancer comme une fille » et autres essais, qui n'est pas encore traduit en français, j'ai découvert, d'une certaine façon, comment la pensée de Simone de Beauvoir pouvait être approfondie, creusée, pour devenir vraiment comment dire, une vraie proposition de phénoménologie féministe. C'est-à-dire que Iris Bryan-Young réalise ce tour de force qui est de tenir ensemble le concept phénoménologique de corps vécu avec la notion de genre dont elle est contemporaine, hein, dans les années 80 aux États-Unis, ce qui lui permet donc de penser à la fois la façon dont les femmes éprouvent leur existence dans le monde, et notamment avec tout ce que ça implique au niveau de leur existence incarnée, et puis comment elles vivent aussi dans le monde en subissant un certain nombre de structures de contraintes, comme elles les appellent, c'est-à-dire notamment l'hétéronormativité, la binarité féminin-masculin, et puis la domination masculine. Et cette approche qui essaye de réconcilier l'inconciliable, c'est quelque chose qui me paraît vraiment extrêmement fin et pertinent, précisément pour comprendre le moment où nous sommes de la pensée féministe et des luttes féministes.
Mais c'est un petit peu la question que je vous posais tout à l'heure, Camille Foidre-Maîtrie. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, en travaillant sur la question d'un féminisme incarné ou d'une phénoménologie féministe, de tenir une position un petit peu compliquée et même parfois marginale, où en fait, dès lors que l'on parle d'un corps féminin, on peut être suspecte de vouloir essentialiser les femmes, de vouloir les enfermer dans un corps et de vouloir les ramener précisément à ce qui les a aliénés pendant des siècles.
Oui, en effet, cette approche de la question des femmes par le corps, elle n'est pas nouvelle, bien évidemment, et quand elle a été abordée, c'est effectivement dans une perspective qu'on peut appeler essentialiste ou différentialiste, comme l'ont fait un certain nombre de féministes dans les années 70, en proposant une réflexion sur la condition des femmes qui était essentiellement au prisme de la maternité. Hein, la matrice, le mot est bien choisi, la matrice du féminisme différentialiste, c'est la question maternelle. Or, dans l'approche qui est la mienne, par exemple, cette question, d'une certaine façon, je dissocie le maternel du féminin. Alors, je pourrais développer, mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que l'essentialisme, c'est une autre façon de hiérarchiser le féminin et le masculin. Il y en a plusieurs, et c'est ce qu'il faut dépasser précisément.
Et alors, comment vous tentez de dépasser justement cette idée que le corps est forcément essentialisateur ?
Alors, en proposant de le penser dans les termes de la singularité sexuée, c'est-à-dire qu'il faut vraiment éviter cet écueil de la différence des corps, féminin et masculin, pour penser l'expérience vécue de nos corps sexués, sans nécessairement les enfermer justement dans ce prisme binaire. Et il me semble qu'en l'approchant avec cette idée d'une singularité sexuée qui renvoie au fait que nous avons toutes et tous quelque chose à faire de nos corps, nous sommes toutes et tous confrontés, alors notamment pour les femmes par exemple, à la question de la maternité, mais nous le faisons dans un contexte, alors nous occidentaux bien sûr, parce que je me cantonne en tout cas pour ce qui est de cette proposition à ce cadre-là, nous pouvons le faire dans un contexte nouveau qui est celui d'une immense libération. Les femmes, relativement à toutes ces thématiques corporelles, maternité, sexualité, apparence, etc., ont toutes la possibilité de faire à peu près tous les choix possibles, ce qui signifie aussi que nous devons, quand on est féministe en tout cas, leur accorder cette possibilité et cette chance de pouvoir faire cette diversité de choix. Je reprends la question de la maternité, je pense que parmi les options procréatives possibles, par exemple, non-désir d'enfant en est une, non seulement tout aussi légitime que les autres, mais qu'elle doit même être comme une sorte de combat féministe quand on voit comment aujourd'hui il est très difficile pour les femmes et notamment les plus jeunes qui souhaitent ne pas avoir d'enfants de pouvoir rendre ce non-désir d'enfant possible en quelque sorte notamment. Et puis à l'autre bout de l'éventail des choix possibles en termes d'options procréatives, il y a par exemple le fait d'avoir plusieurs enfants et par exemple de vouloir s'arrêter de travailler pour les élever. Et pourquoi pas ? Dans ces domaines corporels, ce qui compte, dans une perspective féministe, c'est de permettre aux femmes de faire tous les choix possibles et, d'une certaine façon, de ne pas s'autoriser la posture normative qui serait de décréter qu'il y a une bonne façon, quand on est une femme, de vivre, par exemple, cette question du maternel ou de vivre sa sexualité ou de vivre sa conjugalité. Une fois encore, c'est quand même quelque chose d'assez, une fois encore, inouï, pour nous occidentales, que d'avoir la possibilité dans tous ces domaines de faire à peu près tous les choix. Mais, et c'est l'autre versant, il faut toujours tenir les deux ensemble, ces choix nous les faisons en même temps en subissant un faisceau de sommation, de diktats sociaux, commerciaux, patriarcaux, qui font que cette liberté, c'est en réalité une liberté sous forte contrainte. Et c'est très précisément ça que j'essaye de penser, c'est-à-dire que l'approche phénoménologique permet de penser le corps des femmes à la fois comme le lieu par excellence de la domination masculine, qu'il est bel et bien, mais comme le vecteur possible d'une émancipation qui passe aussi par le corps. Et je crois que le mouvement auquel nous assistons aujourd'hui, de cette nouvelle génération de féministes qui investit des sujets non seulement corporels, mais j'allais dire plus encore génitaux, intimes, dit bien qu'il y a une libération à exiger dans le plus intime de nos corps de femmes, jusque dans nos entrailles en quelque sorte.
Acho que tá boa aí em cima, né?
É.
Casa bonita.
É.
Coleção de LP.
Quer beber alguma coisa? Eu tô tentando matar aquela garrafa de vinho ali, ó.
Não, não. Obrigado. Eu tô de moto.
Ah, tá certo. Senta, fica à vontade. Sim. Eu quero que você vá embora.
Como é que é? Você quer que eu vá embora?
Eu quero que você me coma.
Vous venez de dire c'est bien, Camille Froide-Vaumettry. On vient d'entendre un extrait de Aquarius. C'est le film de Kléber Mendoza-Filho qui est sorti en 2016. C'est un film que vous nous avez dit qui vous tenait à cœur. On vient d'entendre un moment, donc une scène d'amour avec l'héroïne du film, donc Clara, qui est la dernière habitante d'un immeuble qui s'appelle l'Aquarius et qui résiste à la fois à la pression d'un promoteur immobilier, mais aussi à son cancer du sein. Et on comprend qu'elle a éduqué, élevé ses trois enfants seuls. Pourquoi vous vouliez entendre un extrait de ce film? Alors, peut-être pas forcément celui-ci, mais en même temps, comme vous parlez de tournant génital et de philosophie de l'intime, autant y être.
Ça me va vraiment très bien, en effet, parce que j'adore ce film, parce que c'est l'histoire d'une femme. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est important, c'est qu'elle a la soixantaine. Et cette histoire de l'âge, pour moi, c'est important. Et c'est une femme, alors, qui est très belle, qui aime la musique, qui aime danser, qui aime faire l'amour. Donc là, c'est une scène, vous dites d'amour, c'est une scène de sexe, qui est magnifique parce qu'on voit cette femme torse nue avec le sein qui lui reste d'un cancer du sein, avec un homme plus jeune qu'elle a fait venir et on devine...
Une sorte de gigolo.
Voilà, on devine que voilà, elle l'a rémunéré. Il y a des scènes très très incarnée, magnifique, où dans son corps de femme de 60 ans, elle va se baigner. Enfin, j'aime beaucoup ça. Et puis, par ailleurs, c'est une femme qui lutte seule contre un grand groupe immobilier, qui lutte, voilà, enfin, sur le terrain vraiment social, politique. C'est une femme libre qui ne subit rien. C'est une femme qui montre aussi que le désir des femmes, et y compris quand elles ont passé le cap fatal de la cinquantaine, c'est un sujet. Et parmi, par exemple, les thèmes que j'explore dans ma phénoménologie féministe, cette question, par exemple, de ce que j'appelle les nœuds phénoménologiques, c'est-à-dire les moments où, dans la vie des femmes, quelque chose se passe qui est une véritable transformation physique, comme par exemple la ménopause, mais qui est aussi une transformation existentielle, sociale et bien sûr politique, hein, puisque le sort qu'on réserve aux femmes dans nos sociétés quand elles sont au-delà de la cinquantaine, il n'est pas très enviable puisqu'elles disparaissent à peu près non seulement du regard des hommes mais aussi et peut-être surtout du monde social et professionnel ou en tout cas qu'on leur demande de devenir les plus invisibles possibles, pour reprendre les mots d'un certain Malotru. Et donc ce personnage-là, pour moi, eh ben, il condense ce que sont les femmes aujourd'hui, c'est-à-dire des femmes qui vivent leur corps et qui l'éprouvent dans toutes ces dimensions, y compris les plus incarnées, et qui sont aussi des femmes en lutte et des femmes libres.
Vous parlez de tournant génital. Est-ce que, alors moi, je, par exemple, pour ma part, effectivement, il y a dans les corpus féministes ou même philosophiques une cruelle absence de textes sur des thèmes tels que la grossesse, la maternité, la vieillesse. Alors, il y a quelques essais qui sont parus récemment, mais écrits par des hommes. Cette question de l'âge chez les femmes est peu abordée, mais est-ce que parler du féminin en partant du corps, alors j'ai déjà posé la question d'une position un petit peu marginale, mais même un petit peu aliénante, mais est-ce qu'on peut aussi dire que parfois une femme n'a pas envie d'être pensée à partir de son corps et que parfois la lutte n'est pas forcément que corporelle, elle n'est pas qu'incarnée, mais qu'on a aussi envie de se défaire de ce corps-là et de ne pas le marquer par des caractéristiques féminines ou même pas du tout féminine. Est-ce qu'on peut penser un détachement du corps à travers même votre féminisme phénoménologique?
Bien sûr, puisque comme je le disais, enfin, il faut aborder cette question du corps à travers cette idée du choix, de la liberté et donc de la multiplicité des options. Et donc, selon la femme, enfin disons, selon son propre parcours biographique, selon l'âge de la vie auquel on se trouve, selon les circonstances de l'existence auxquelles on est confronté, le corps prend une place plus ou moins grande. On peut avoir envie de totalement l'oublier, on peut avoir envie de se débarrasser de ses astreintes, on peut avoir envie de se débarrasser du fait d'avoir des règles, d'évacuer la question des enfants, d'évacuer même pourquoi pas la question de la sexualité ou de la vivre d'une façon la plus...
désengagée.
Oui, voilà. Et puis... à d'autres moments, enfin, en réalité, je suis à peu près convaincue que d'une forme de mouvement permanent. S'il y a bien quelque chose, je crois, qui peut-être distingue et allez, j'ose le mot, différencie les hommes des femmes du point de vue du rapport au corps, c'est cette question de la transformation, du changement perpétuel et donc d'une certaine forme d'instabilité qui est aussi peut-être parfois une forme d'inquiétude existentielle. Voilà, il y a du côté des hommes, il n'y a pas vraiment de marqueurs physiques qui leur permettent d'éprouver à la fois la contingence, la fragilité, l'intensité. Alors bon, je vais faire dresser quelques cheveux sur des crânes qui n'en ont peut-être plus beaucoup, mais je suis assez convaincue de cette importance du corps, y compris, par exemple, dans le refus de lui donner de l'importance.
Vous travaillez aussi, Camille Froidevométry, sur les seins. Vous avez réalisé une très grande enquête sur le rapport que ont un certain nombre de femmes de tout âge avec leur poitrine. Vous parlez aussi des règles, on l'a entendu, vous parlez de la grossesse. D'où vous viennent en fait ces sujets ou ces idées, j'ai envie de dire, enfin, par exemple, pourquoi s'intéresser aux seins? Qu'est-ce que vous avez découvert avec cette enquête et puis comment vous avez mené cette enquête?
Alors le point de départ, c'est ce que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire cette idée que la vie des femmes est scandée par un certain nombre d'événements et de nœuds phénoménologiques, c'est-à-dire où une dimension incarnée de leur existence s'avère en réalité être non seulement très intime, personnelle, mais aussi sociale et politique. Et donc j'ai réfléchi, j'ai en quelque sorte recensé tous ces nœuds phénoménologiques, et parmi ces nœuds phénoménologiques, il y a la question du fait d'être, de se présenter dans le monde physiquement avec des seins ou pas, ou des petits ou des gros ou des voilà. Et donc j'ai eu envie de mener cette enquête qui est une enquête phénoménologico-photographique, puisque les femmes que j'ai rencontrées, j'ai mené des entretiens assez approfondis avec chacune d'entre elles, et j'ai aussi fait un portrait d'elles au prisme de leurs seins, donc on ne voit pas leur visage, pour donner aussi à voir et pour les amener aussi à penser ce que c'est que de donner à voir ses propres seins. Et qu'est-ce que c'est que de réfléchir dans les termes de l'expérience vécue? Et ça, c'est un concept phénoménologique qui est très important pour moi. L'expérience vécue, c'est pas simplement le fait de vivre quelque chose. C'est pas simplement le fait de vivre, le fait d'avoir des seins. C'est le fait d'éprouver une expérience qui est toujours nécessairement une sorte de défi ou une sorte de, voilà, qui mène à se penser dans le monde, penser son apparence, penser la relation aux autres, se penser comme sujet de droit, se penser comme sujet politique. Et il se trouve que d'une certaine façon, les seins, c'est comme une sorte de condensé de toutes ces thématiques pour les femmes, puisqu'on y retrouve la dimension maternelle, la dimension sexuelle, la dimension de l'apparence, la dimension aussi de la maladie, de la contingence de l'existence, etc. Et que finalement, quand j'ai pu l'observer, donc j'ai rencontré plus d'une quarantaine de femmes, la plus jeune...
Sur plusieurs années? Ou non, c'était juste une fois une rencontre, ou est-ce que vous avez suivi?
Ah non, c'est une fois chacune d'entre elles, la plus jeune à 8 ans, la plus âgée 76, et j'ai essayé de rencontrer des femmes qui me permettaient d'explorer la plus grande diversité de ce que j'appelle les situations de seins. Donc, des seins de tous les âges, bien sûr, des seins aussi de toutes les couleurs, mais il y a aussi les seins d'une femme trans, il y a les seins d'une femme handicapée, il y a les seins de femmes noires, bien sûr, il y a des seins coupés, il y a des seins mutilés, il y a des seins allaitants, il y a des seins de grossesse, voilà. Et alors, ce que j'essaie de faire, et donc je suis en train de terminer l'écriture du livre qui paraîtra au mois de mars prochain, chez Anna Moussa, c'est à partir de cette pluralité d'expériences vécues, d'essayer de réfléchir les grands thèmes qui finalement donnent à voir quelque chose qui nous éclaire sur le sujet féminin aujourd'hui. Et ce dont...
Par exemple, vous, la vraie question que je me pose, parce que c'est quand même assez incroyable en philosophie, l'expérience de terrain qu'on peut avoir, c'est l'expérience d'une bibliothèque et de parcourir des textes et de les confronter. Ce qui est une expérience en tant que telle et qui est pas du tout à négligeable ou à minorer. Mais mener une enquête de ce type-là, ça ressemble déjà à un travail sociologique, ce qui se rapproche peut-être de votre proximité avec les sciences sociales au début de votre parcours, mais c'est aussi toute une recherche où je me demande, mais qu'est-ce que vous en avez fait philosophiquement? C'est-à-dire, à partir de tout ce matériau-là, comment vous avez travaillé, articulé un concept? Est-ce que vous en avez tiré des fils? Est-ce que vous avez pensé à un concept déjà existant? Est-ce que vous en avez créé un, par exemple le concept de sein? Qu'est-ce que vous en avez fait de ce matériau-là?
Alors, j'essaie d'éclairer certaines dimensions de la condition féminine, j'allais dire même à travers les âges, c'est-à-dire notamment, par exemple, l'assignation maternelle, en faisant ce détour par l'organe qui, d'une certaine façon, en est une forme de symbole. Je fais la même chose pour la sexualité, et puis, peu à peu, ce qui se tisse, en fait, dans la rencontre entre les récits de ces femmes et l'analyse et la réflexion que je déploie à partir de ces récits, c'est quelque chose de l'ordre d'une montée en généralité qui permet, par exemple, de penser cette question importante d'un point de vue féministe de l'appropriation, exploitation du corps des femmes. Ce qui m'est apparu de façon... Alors, je m'en doutais, mais avec une telle intensité, sans doute pas. S'il y a bien quelque chose qui n'appartient pas aux femmes, ce sont leurs seins. Il y a ce fameux slogan des années 70, « Mon corps m'appartient, nos corps nous appartiennent, our bodies, ourselves ». Eh bien, aujourd'hui, les seins continuent de ne pas appartenir aux femmes. Et je pensais que, la révolution féministe avait permis d'ouvrir, notamment sur cette question du corps, quelque chose qui faisait signe vers une nouvelle condition. Et je m'aperçois, et notamment les seins me le révèlent, que non seulement nous n'en sommes pas là, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'aggravation ou de l'accentuation même de ce phénomène de captation, appropriation, exploitation du corps des femmes, dont je peux proposer par exemple de dire que c'est comme si les femmes devaient payer du prix de leur mise à disposition leur émancipation. Je m'explique, je crois que si on s'intéresse aujourd'hui de si près, comme je le fais, et cette jeune génération aussi le fait, au corps des femmes dans ses dimensions les plus intimes, c'est que tout s'est un petit peu passé comme si les corps des femmes étaient restés des corps à disposition, par-delà même les conquêtes et les droits acquis grâce à la révolution féministe, et que les femmes avaient dû accepter de demeurer des corps à disposition pour pouvoir devenir des sujets de droit et investir pleinement la sphère sociale et publique. Et donc ce que nous avons à faire aujourd'hui, le combat qui reste à mener, c'est cette fameuse bataille de l'intime que je définis, qui consiste précisément à porter le projet émancipateur jusque dans ces sujets très intimes.
Comment dire que les agresseurs peuvent se raconter toute une histoire romantique au sujet d'un truc qui n'est pas du romantisme, qui est de l'oppression, qui broie la vie de tellement de gens, tellement de femmes. Et comme le monde a fonctionné comme ça de manière, je veux dire, sans problème, avec le silence des femmes depuis tellement de temps.
Et l'aveuglement des hommes.
On considère qu'on a inventé avec MeToo la violence qui était faite aux femmes. Mais non, c'est juste qu'on a tellement encaissé, en fait. On a tellement encaissé. Et c'est possible de faire autrement, société. C'est possible. C'est bien pour tout le monde. C'est bien en premier lieu pour les victimes. Mais c'est bien pour même les bourreaux, en fait, qui se regardent en face. C'est ça, être humain. C'est pas écraser et essayer d'obtenir du pouvoir. C'est se remettre en question et accepter ça, et accepter le côté multidimensionnel de ce que c'est qu'un être humain. Et comme ça, on fait une belle société. Comme ça.
C'est la voix de l'actrice Adèle Haenel qu'on vient d'entendre qui a pris la parole ces derniers jours pour révéler qu'elle avait été victime de harcèlement sexuel et d'attouchement par le réalisateur Christophe Ruggia. On a pu la suivre dans une longue interview sur Mediapart. L'affaire est sortie ce dimanche. Vous avez dit, Camille Froide-Vaumétrie, qu'il restait des combats à mener de l'ordre de l'intime. Il y a aussi des combats à mener, évidemment, politiques. La prise de parole en fait partie, mais aussi pas seulement la prise de parole des femmes pour dénoncer des actes de violence qu'elles ont subis, mais aussi pour repenser, comme le dit très bien Adèle Haenel, une nouvelle forme de société sans domination et peut-être sans binarité, comme vous l'avez dit en début d'entretien, Camille Froide-Vaumétrie.
Je suis très contente qu'on en ait passé cet extrait parce que ça permet de dire que le mouvement MeToo, c'est pas seulement une libération de la parole, c'est aussi une forme de confrontation ou d'adresse faite aux hommes qui leur indique que désormais ils ne peuvent plus faire comme si le féminisme c'était des histoires de bonnes femmes qui ne les regardent pas. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire du féminisme que les hommes ne peuvent plus en fait esquiver la question de leur propre rôle et de leur propre implication dans la domination et de l'importance qu'il y a dans une perspective féministe à intégrer cette question des hommes. Ce que dit Adèle Haenel quand elle parle des bourreaux et de la nécessité qu'ils se regardent en face, de la nécessité de se remettre en question, pour moi c'est absolument crucial. Alors c'est pas forcément une position que toutes les féministes partagent, mais moi je suis absolument convaincue que les hommes doivent prendre leur part et que ça commence par ce travail. Alors d'autocritique c'est encore trop peu, mais en tout cas de réflexion et surtout d'acceptation de leur part, d'écouter ce que nous avons à leur dire, de ce qu'ils ont fait, non pas eux comme personnes individuelles, mais eux en tant que les hommes qui, depuis l'aube des temps, dominent les femmes. Et c'est un sujet auquel je m'intéresse beaucoup en ce moment, dans une autre perspective qui fait signe vers peut-être quelque chose d'un peu curieux dans mon parcours, mais qui est que j'accorde beaucoup d'importance aux modalités, j'allais dire, non scientifiques de la restitution de la pensée, notamment le cinéma et le théâtre et l'approche documentaire. J'ai fait, donc vous l'aviez dit, un docu-fiction sur les femmes politiques et je travaille aujourd'hui...
Ça s'appelait Dans la jungle, voilà, qui est sorti en 2012.
Voilà, et aujourd'hui je travaille à un nouveau projet qui s'appelle Les Mâles du siècle, qui porte sur justement les hommes et le féminisme. Il s'agit de rencontrer des hommes pour, comme le disait une fois encore Adèle Haenel, les mettre face aux différents combats féministes et de leur demander ce que le féminisme a changé pour eux ou pas. Et
surtout, c'est pas forcément des hommes féministes à qui vous
vous adressez. Voilà. Mais c'est leur demander justement de les confronter en quelque sorte à cette réalité dont je pense qu'ils ne peuvent plus l'esquiver, qui est que le féminisme a enclenché une dynamique d'émancipation que je considère, que j'espère en tout cas, irrésistible, et que le moment est venu pour eux de se confronter à cette question et de prendre leur part, ou pas, mais en tout cas, moi ce qui me frappe, c'est qu'on a beaucoup entendu, après MeToo, tous ceux qui s'indignaient des procès, soi-disant, qui leur étaient faits. Je vois, le moment est venu d'entendre les autres, ceux qui éventuellement sont prêts à accompagner les féministes dans leur combat, ceux qu'on appelle les alliés, ceux qui ne savent peut-être pas où ils en sont, mais dans tous les cas, on ne peut pas faire comme si ces combats pouvaient se mener sans eux.
Qu'est-ce que vous pensez, alors je le dis un petit peu à dessein, parce que j'ai lu votre tribune dans Libération, par exemple, d'un travail comme celui de l'historien Yvan Jablonka, qui a fait donc un livre paru à la rentrée qui s'appelle « Des hommes justes », et vous lui reprochez, alors même qu'il se remet en cause, il a des pages assez intimes, pour le coup, sur lui-même, où il dit qu'il se remet en question, qu'il s'est lui-même a pu être privilégié chez lui, à l'université, parce qu'il était un homme blanc. Il a donc écrit ce livre-là, mais pourtant, vous lui reprochez de mettre à l'écart tout un ensemble de travaux féministes justement sur la question des masculinités et des femmes.
Avant de faire cette autocritique et de mener cette réflexion sur ce que ce serait que d'être un homme juste, c'est-à-dire un homme qui intégrerait le fait de l'émancipation et les combats féministes, Yvan Jablonka a entrepris de nous expliquer ce qu'était le patriarcat depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. Et en historien, de façon très documentée...
C'est vrai que ça s'appelle « Du patriarcat aux nouvelles masculinités », c'est
voilà
le titre de son livre.
Voilà. Et donc, en historien, de façon très argumentée, très documentée, il nous fait un certain nombre de propositions, Alors, tout à fait intéressante. Moi, ce qui m'a dérangée, c'est que ces propositions, ça fait des décennies que les théoriciennes féministes les ont faites. Ça fait, il y a un nombre d'ouvrages et de propositions féministes sur ces questions qui ont été faites. Et moi, ce qui me révulse, mais vraiment, enfin, ce qui me scandalise, c'est que Yvan Jalblanca consacre en tout et pour tout une quinzaine de pages aux féministes sur les 400 pages que compte son ouvrage et qu'il laisse totalement de côté, notamment les philosophes femmes du politique, Hannah Arendt, Suzanne Moller-Hocking, Petman, Elstein, Gilligan, etc. Et surtout qu'il a l'outrecuidance de présenter des concepts comme une forme de nouveauté, par exemple, le concept de cercle patriarcal ou le concept de la fonction femme, enfin tout ça, la thèse fonctionnaliste, hein, c'est-à-dire cette idée que les femmes sont assignées à la fonction maternelle du fait de leur nature procréatrice, enfin ça fait des décennies que les féministes la soutiennent, voilà. Et donc je trouve ça quand même un peu... Oui, un peu fort de café. Alors, je suis ravie. Quand le livre est sorti, j'étais enthousiaste. Je me disais, bah, enfin, un homme qui prend au sérieux ces questions et qui va les investir. Sauf que cet homme le fait en se fichant comme d'une guingue de tout ce que les théoriciennes féministes ont pu dire de ces sujets. Et par ailleurs, je trouve que pour ce qui est de sa proposition de ce que c'est que d'être un homme juste, il a une façon quand même singulièrement masculino-centrée de présenter la chose, puisqu'il fait du féminisme en fait une forme de répétition du combat des droits de l'homme de la Révolution française d'une part, et ensuite il attribue les grandes conquêtes féministes aux démocraties modernes et aux hommes politiques qui ont permis un certain nombre d'avancées. Donc en fait, c'est quand même, et une fois encore, tout ça fait totalement passer à la trappe le rôle crucial non seulement des théoriciennes, mais aussi des militantes et des actrices féministes.
Est-ce que vous considérez à partir de là, Camille Frédéric-Métry, que votre travail en tant que philosophe féministe, c'est aussi déjà de donner à entendre tous ces textes-là, tous ces penseurs que l'on ne reconnaît pas, tous ces concepts qui ont déjà été pensés, déjà qu'en fait, ils commencent à diffuser dans l'espace public, plutôt que de présenter effectivement des concepts comme s'ils étaient neufs, alors qu'en fait, ils étaient là. Est-ce que vous voyez votre travail aussi de philosophe dans l'espace public comme ce travail-là de diffusion ?
Absolument, vraiment. Enfin, et d'ailleurs, c'est un double travail et philosophique et féministe, puisqu'il s'agit en philosophe de redonner leur juste place à des autrices qui ont contribué de façon décisive à faire évoluer la réflexion sur ces questions. Mais en tant que féministe, c'est aussi, j'aime beaucoup cette approche qu'avaient développée les femmes qui faisaient partie de la première administration Obama, qui avaient décidé, lorsqu'elle prenait la parole lors d'une réunion, de toujours commencer par parler de la femme qui, avant elle, avait fait une proposition. Elles ont appelé ça l'amplification. Les femmes, nous manquons singulièrement d'amplification, puisque nous ne pouvons pas compter sur les hommes pour donner à entendre ce que nous avons à dire, notamment dans le champ de la philosophie, et que nous ne pouvons donc que compter sur nous-mêmes. Et donc, en tant que philosophe féministe, je veux amplifier l'œuvre de ces théoriciennes féministes qui sont encore trop mal connues et qui sont pourtant si importantes.
Il y a quelques années, Camille Frévaux-Métry paraissait la révolution du féminin. C'était en 2015. Vous avez réécrit ce livre. Enfin, vous ne l'avez pas réécrit, vous l'avez revu pour une nouvelle parution en 2020. Quelques années plus tard, qu'est-ce qui a changé ? Et qu'est-ce que vous avez pu reprendre ou réécrire dans ce texte-là ?
Alors, je l'ai repris, je ne l'ai pas réécrit, mais je l'ai préfacé. Et en le préfaçant, c'était l'occasion pour moi justement de prendre la mesure de ces 5 années qui séparent donc 2015 et donc 2020, quand paraîtra la version poche chez Folio Essai au printemps prochain. C'était d'observer comment les propositions qui étaient les miennes, donc pour faire très court, de ce féminisme incarné qui, à l'époque, avait été reçu avec une certaine forme de scepticisme, pour pas dire plus parfois. Et donc, ce qui s'est passé depuis, eh bien, c'est ce fameux tournant génital, c'est-à-dire que d'une certaine façon, les nouveaux combats viennent confirmer en quelque sorte cette intuition que j'avais de ce que la question du corps, alors c'est pas évidemment aujourd'hui qu'elle est investie pour la première fois, c'est même d'une certaine façon, on fait retour aux fondamentaux, hein, puisque dans les années 70, c'était précisément ces questions, alors les droits contraceptifs, mais pas seulement, des premières propositions sur le versant de la révolution sexuelle, mais qui ont été en quelque sorte recouverts par des décennies d'autres combats. Et c'est aujourd'hui, au gré d'un certain nombre d'étapes, et c'est là par exemple que l'étape des études de genre est cruciale, parce qu'en fait, on ne peut faire retour au corps des femmes qu'une fois que les études de genre nous permettent de penser, de déconstruire notamment la binarité féminin-masculin et de penser la fluidité des genres. On ne peut penser la singularité sexuée, comme je l'appelle, qu'à partir du moment où on accepte de se défaire de ces prismes un peu réducteurs et d'essayer de réfléchir à ce que pourrait être une sexuation, alors féminine, masculine ou neutre, ou peut-être encore autre chose, mais dans un cadre totalement inédit, et c'est ça vraiment qui je trouve absolument passionnant aujourd'hui, c'est que...
Et qui a changé, vous pensez, là, depuis quelques années, qui s'est affirmé ou qui était déjà là quand vous aviez écrit en 2015 cette multiplicité de possibilités? Est-ce que vous trouvez qu'elle a apparu récemment et vous en prenez la mesure maintenant, ou est-ce que elle était déjà là quand vous travailliez sur la révolution du féminin il y a 5 ans?
Ben, je crois qu'il se passe quelque chose autour de cette année 2015, hein, parce que c'est là qu'on voit les premières revendications, notamment autour de la question des règles, etc., apparaître. Alors, en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que tout ce que les études de genre ont permis de mettre au jour, tout ça s'est transformé en un certain nombre de combats. Notamment, je pense au combat pour l'homoparentalité, la question de la PMA pour toutes, etc. C'est-à-dire qu'en fait, le champ militant a endossé les conséquences pratiques d'un certain nombre de théories qui en sont venues, en fait, à se présenter comme des projets politiques. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important, et on fait retour avec le début de l'émission, de tenir ensemble philosophes féministes, parce que c'est une forme de circularité entre, d'une certaine façon, la théorie et la pratique, les idées, et puis la façon dont ces idées se transforment en projets et en combats politiques.
C'est vous, Camille Froidvaux-Métric, qui avez demandé cette chanson des Cure, Boys Don't Cry. Pourquoi ?
D'abord parce que je l'aime beaucoup, parce que toute ma jeunesse, j'ai écouté tous ces groupes de la Cold Wave, The Cure, Tuxedo Moon, Minimal Compact, et que c'est pour moi associé à mon premier réveil philosophique, puisque c'était un moment de profonde interrogation existentielle, etc. Mais c'est aussi, je m'en suis aperçue en réfléchissant justement à vous proposer une chanson, c'est un texte qui dit que les garçons ne doivent pas pleurer, et on était voilà tout à fait au tout début des années 80, et au moment où la notion de genre est théorisée dans le monde de la musique, on vivait et on pensait aussi cette question de la déconstruction des stéréotypes de genre.
Merci beaucoup Camille Froidvaux-Métric. Je rappelle le titre de vos livres, La révolution du féminin, qui va donc reparaître dans une nouvelle édition chez Gallimard, Le corps des femmes, la bataille de l'intime chez Philosophie Magazine éditeur. Et merci à toute l'équipe des Chemins de la Philosophie, Anaïs Isbert, Adèle Van Rett, Manon Delasselle, Isis Jourda qui a préparé cette émission, Jules Barbier, Laurence Malonda et Nicolas Berger à la réalisation, avec à la prise de son Jacques Hubert. Les Chemins, c'est fini pour cette semaine, mais on se retrouve lundi pour une nouvelle série d'émissions. Et lundi, c'est Adèle Van Rett qui revient au micro pour 4 émissions enregistrées en ce moment même à Lille, dans le cadre du festival Cité Philo. Si vous êtes à Lille aujourd'hui et demain, profitez-en, vous pourrez découvrir 4 émissions sur le pouvoir de la parole. Sinon, ce sera lundi à 10h sur France Culture, de l'impuissance de la parole à son pouvoir de guérison, en passant par le mensonge et cette grande question: parler, est-ce agir? D'ici là, vous pouvez écouter ou réécouter cette émission en compagnie de Camille Froide-Vométry et toutes celles de cette semaine sur les philosophes russes en allant sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie, où vous pourrez aussi retrouver toutes nos informations musicales et bibliographiques. Et enfin, rendez-vous aussi sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram. À lundi donc, d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.